comment dire, dire qu'on aime les animaux, c'est passer un petit peu pour un con-con. Et la meilleure preuve, c'est que en matière de podcast, le thème animaux fait partie de famille enfants. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc qu'on raconte aux enfants pour s'endormir. Et c'est un vrai drame. En 2020, il y a un cap qui a été franchi dans l'histoire de l'humanité. L'ensemble de tout ce qu'on construit, nos bâtiments, mais aussi nos téléphones portables, le pull que tu portes, le micro avec lequel on enregistre, etc. La masse de tout ce qui est fabriqué, de tous les objets fabriqués par l'humain, de toute leur construction, dépasse la biomasse de tout le vivant. Un vertébré, c'est quand même fou d'avoir fait cette espèce de groupe animal fourre-tout avec tout ce qui n'a pas de vertèbre. Tu vois, c'est définir quelque chose en négatif. Moi, ce que j'écris dans le bouquin, et j'espère que ça fera sourire celles et ceux qui vont lire ça, c'est que comment vont nous définir les insectes ou les éventuels céphalopodes qui auront pris le relais de l'espèce humaine une fois qu'on aura réussi à flinguer toute la planète? Est-ce qu'ils nous auront défini comme inanténés, on n'a pas eu les antennes pour deviner ce qu'on allait faire, comme inharmonieux parce qu'on n'a pas réussi à vivre en harmonie avec ceux que j'appelle très sérieusement nos frères et sœurs du vivant, ou comme des insupportables, enfin bref.
« 80% des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multipassionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant, le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action et surtout l'envie d'avoir envie. Un peu. Et surtout, l'envie de nous engager, nous aussi, en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante. Car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai quitté mon Beaujolais adoptif pour me rendre à Paris. En ce dimanche matin, j'avais rendez-vous avec Marc Mortelmans. Marc est journaliste, naturaliste, et il est connu pour être l'hôte du podcast Baleine sous gravillon et de ses trois petits frères Combat, Nomen et Petit Poisson deviendra podcast. Il anime également Mécanique du vivant sur France Culture. Nous nous rencontrons dans le cadre de la sortie de son premier livre pour en finir avec les idées fausses sur le monde vivant, des éditions de l'Atelier, disponibles en librairie depuis le 19 avril. Dans cet épisode, il sera question du vivant et non de nature. Car la nature, c'est celle qu'on repousse au second plan, en périphérie, de nos villes et de nos vies. Il s'agit d'une nature à la demande, un décorum pour nos balades du dimanche ou pour nos évasions lointaines de vacances. Là, la nature est recherchée, espérée, fantasmée. Une nature grandiose, abondante, colorée, source d'émerveillement et de respiration. Le reste du temps, c'est un peu loin des yeux, loin du cœur. Un imaginaire primitif, arriéré, dangereux, cruel, vecteur de maladies, source de problèmes, qu'il vaut mieux contrôler avant qu'elle nous contrôle. Bah oui, après tout, pourquoi donc protéger cette fameuse nature quand on a de la nourriture à profusion, de l'eau potable en tournant le robinet, de la lumière en appuyant sur un bouton? Tout ça, c'est bien grâce à l'intelligence humaine et non à la nature, ça se saurait, pas vrai? Oui, nous avons bel et bien perdu le lien. Il y a pourtant l'amour presque universel des enfants pour les animaux, qu'on abreuve de lectures fantastiques et d'images colorées le soir avant de se coucher. Mais au moment de choisir un métier, une orientation pour la vie, il s'agit de devenir sérieux. Aimer les animaux, c'est un peu con-con à partir d'un certain âge. À mon époque, quand tu t'obstinais à aimer les animaux, c'était vétérinaire ou pas grand-chose d'autre. Alors évidemment, quand on découvre le travail de Marc Mortelmans, cet amoureux des animaux et du vivant, ça vient réveiller un vieux rêve d'enfant, cette envie d'œuvrer pour les animaux et le vivant sur ce joyau de planète Terre. Au début, tu te fais toujours surprendre. Tu te dis 3 épisodes sur les abeilles sauvages et je m'arrête. Et c'est comme ça que tu te retrouves une heure après en train de découvrir la sexualité incroyable des pucerons ou encore l'anatomie des rémantas. Les podcasts de Marc, c'est aussi puissant que l'algorithme Insta. Il crée des gouffres spatio-temporels dans lesquels on voyage, mais à la grande différence d'Insta où on peut par mégarde perdre des neurones au passage, quand on ressort des podcasts de Marc, on ressort toujours émerveillé et inspiré. Bref, vous l'avez compris, j'ai la chance de rencontrer Marc Mortelmans ce matin. Bonjour Marc. Et pour commencer, je laisse Marc se présenter.
Alors qui je suis, pour répondre à ta question, je suis un mec de 52 ans qui a fait beaucoup de choses dans sa vie et qui est passionné du vivant depuis qu'il est môme, comme beaucoup de gens. Je parle de moi à la troisième personne. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'études différentes dans ma vie au grand désespoir de mes parents. J'ai commencé par faire l'agro, j'ai fait maths sup, maths spé, bio. Ensuite, j'ai fait de l'allemand, j'ai fait un double diplôme d'allemand, culture d'un côté, langue de l'autre. J'ai fait de l'architecture, figure-toi. Et à la fin de tout ça, mes parents étaient vraiment désespérés car ils pensaient que je deviendrais président de la République, cosmonaute ou avocat, rien de moins. Enfin, en gros, j'étais une sorte de vagabond universitaire. Et au final, voilà, j'ai fait une école de journalisme. Et après, j'ai un peu bossé comme journaliste dans différents domaines. J'ai fait de la télé, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la presse écrite. Et une petite originalité de ma vie, et pour le coup, j'en suis fier parce que je l'ai choisi, c'est que de 30 à 40 ans, j'ai décidé de prendre ma retraite à l'envers. J'ai décidé de parcourir le monde, beaucoup d'endroits, les montagnes, les océans, etc. Et de vivre la vie rêvée d'un retraité, mais de 30 à 40 ans, quand j'en avais la force, la foi, l'envie, les tripes, tout ce que tu veux. Et donc, j'ai dit 52 ans. Donc là, ça fait quand même plus de 12 ans que je suis rentré à Paris. Et j'ai fait 1000 choses encore. Et depuis le Covid, en fait, ma vie a changé, comme celle de beaucoup de gens. À la faveur du Covid, comme quoi à toute chose malheur est bon, eh bien, je me suis dit que j'allais créer... que j'allais me recentrer, parce que j'ai plus eu de boulot. À l'époque, j'étais réalisateur de vidéos pour corporate, tu sais, des vidéos institutionnelles pour des entreprises, ce que j'aimais beaucoup faire. Et du coup, j'ai plus de boulot. Et donc, du coup, j'étais amené à complètement repenser ma vie, mon travail et beaucoup d'autres choses. Et donc, c'est à la faveur de ça que j'ai créé Baleine sous Gravillon. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était l'aboutissement, finalement, de beaucoup de choses de ma vie. Parce que j'ai bossé comme prof de plongée. C'est drôle. Il aura fallu 50 ans pour que je fasse ce pour quoi je pense je suis fait. C'est-à-dire juste faire tout ce que je peux pour raconter ce vivant qui, moi, m'émerveille, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Tu l'as dit toi-même, et ton intro était très bonne. Dire qu'on aime les animaux, c'est passer un petit peu pour un con-con. Et la meilleure preuve, c'est que en matière de podcast, le thème animaux fait partie de famille-enfant. Enfin, tu vois, c'est vraiment le truc qu'on raconte aux enfants pour s'endormir. Et c'est un vrai drame, mais j'imagine qu'on va en parler à la suite.
Ce que j'avais envie de dire aussi en introduction, c'est que c'est Hugues Mouret, directeur scientifique de l'association Arthropologia, que j'ai eu la chance d'interviewer pour mon premier épisode, qui m'a donné cette chance incroyable de me lancer, qui nous a mis en relation. Je profite pour dire que vous avez co-créé ensemble une série de 12 épisodes de 15 à 20 minutes qui se dévorent sur les auxiliaires de culture. C'est passionnant, c'est très instructif et c'est disponible sur vos plateformes respectives à tous les deux. Rentrons dans le vif du sujet. Nous nous rencontrons donc dans le cadre de la sortie de ton premier livre, on rappelle le titre, pour en finir avec les idées fausses sur le vivant, des éditions de l'Atelier, disponible en librairie depuis le 19 avril. Quelle était ton envie, ton objectif en écrivant ce livre ?
Alors je dois dire que j'ai eu la chance, surtout depuis que je fais ces émissions à France Culture, là je suis entre guillemets en pourparler avec une douzaine d'éditeurs qui, depuis que je fais Mécanique du vivant sur France Culture, m'ont contacté, et donc il y a plein de projets qui sont en cours. Et je dois dire que, un peu comme le reste de la dizaine d'autres éditeurs, j'ai été contacté par Gaël, que j'embrasse à ce micro, donc la patronne des éditions de l'Atelier, qui m'a proposé de faire ce livre. Et je vais essayer de te la faire très courte. Elle a été un peu roublarde, et j'adore les gens roublards, malins, on va dire. C'est-à-dire qu'au départ, on devait faire ensemble un jeu de cartes à destination des enfants pour les écoles. Tu vois, au lieu de faire des Pokémon, en gros, faire des cartes qui racontent le vivant à destination de l'enseignement des enfants. Donc ça, c'est un des autres projets qui me tient à cœur. Il est en cours. Et Gaël m'a dit, pour la sortie de ce genre de jeu, ça serait vraiment génial, à tout point de vue, que tu fasses aussi un livre. Et on a commencé à se dire, mais qu'est-ce que je pourrais faire ? Et vu qu'elle a une collection qui préexiste à ce livre, qui s'appelle justement « En finir avec les idées fausses sur », de manière assez naturelle, moi, la première proposition que je lui ai faite, c'est on pourrait faire « En finir avec les idées fausses sur le vivant ». Il y en a légion, il y en a des masses. Et pour moi, c'était aussi l'occasion aussi de balayer devant ma porte et de rectifier beaucoup de choses que je dis mal, que je raconte mal, que je sais mal. Et c'est peut-être un des aspects les plus importants de ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. C'est que... Tu vois, je suis très heureux d'avoir mis dans l'introduction que moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas bardé de diplômes. Moi, je suis un curieux éternel qui cherche, qui se renseigne. Et si je dis ça, c'est parce que je pense que justement, la plupart des gens ne sont pas assez curieux, je trouve. Moi, j'ai plein de défauts, mais je n'ai pas celui de ne pas être curieux. Et ce que je vends, entre guillemets, c'est un mot horrible dans ce livre, c'est le fait justement d'être curieux et de vérifier par soi-même. Le livre finit par un chapitre sur les fakes. Et tu vois, je suis consterné de voir à quel point les fakes, mais qui sont énormes, enfin qui sont ridicules, qui sont grotesques, sont partagés des milliers de fois plus que tous les gens qui se donnent la peine d'écrire des trucs sérieux et tout, qui sont pratiquement jamais lus. Donc ce livre, c'est un peu contre ça. C'est un peu pour dire, réveillons-nous, soyons curieux, vérifions par nous-mêmes. Ce livre est une très modeste et très imparfaite aide pour ceux qui auraient cette démarche.
Tu le dis dans beaucoup d'interviews, nous sommes une société qui avons perdu le lien avec le vivant. Tu cites aussi beaucoup le commandant Cousteau avec cette phrase célèbre « On aime ce qui nous a émerveillés et on protège ce qu'on aime ». Il y a 75 chapitres, idées fausses dans ton livre, que tu expliques, précises, réfutes, illustres. On retrouve ta patte, des chapitres courts, riches d'informations scientifiques, avec beaucoup d'illustrations du vivant. J'en ai sélectionné quelques-unes pour notre voyage de ce matin, avec cette invitation de reconnexion à l'émerveillement lié au vivant. Pour commencer, j'avais envie de replacer l'humain à sa juste place, si tu veux bien. Dans ton livre, tu parles de deux idées fausses, numéro 12 et 44, à savoir l'arbre est la meilleure représentation des liens de parenté entre les espèces et l'humain est au sommet de l'arbre de l'évolution. Peux-tu nous expliquer pourquoi il vaut mieux parler de buisson aujourd'hui et qui est Lucas ? Alors ça fait beaucoup de gros mots, mais tu vas tout nous expliquer.
Bien sûr, une des idées fausses à laquelle je m'attaque dans ce bouquin, c'est effectivement, pour le coup elle est très connue, c'est que pendant des siècles, on a représenté l'arbre du vivant précisément sous forme d'arbre, et guess what, tout en haut de l'arbre, il y avait la branche apicale, la plus haute, qui était l'homme, l'humain.
Écrit en majuscule.
Écrit en plus en majuscule, là où tout le reste est écrit en minuscule. Et donc, voilà, ça veut tout dire. Enfin, chacun comprend que, tu vois, il a fallu attendre Darwin en 1859 avec la publication de son fameux bouquin de l'origine des espèces pour que l'homme soit replacé en banlieue du vivant. Et donc, pour faire simple, qu'on commence à envisager le vivant plutôt comme un buissonnant, que comme un arbre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de branche plus haute qu'une autre. Et en fait, le Lucas dont tu parlais, entre une amibe, une truite, toi, moi et un sapin, on a tous, c'est quand même fou, le même ancêtre commun qui s'appelle en effet Lucas, qui devait ressembler à quelque chose comme une bactérie, et qui signifie Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre universel commun à tout le vivant, qui lui-même n'est pas le tout premier vivant qui a existé. C'est juste celui dont on descend tous, dont tout le vivant descend, mais il y a sans doute eu d'autres formes de vie avant Lucas, et le hasard et la nécessité, qui sont deux mots que j'aime bien, ont retenu Lucas, mais ça aurait pu être autre chose. Tu vois, il y a beaucoup de hasard finalement dans toutes ces choses.
Tu dis dans le livre qu'il y a une représentation figurative artistique en 3D au musée des Confluences de Lyon, où on voit clairement ces trois branches initiales, les archées, les eucaryotes et les bactéries. Et après, chaque branche se déploie ensuite en d'innombrables branches secondaires, tertiaires, etc. Et je vais m'empresser d'aller le voir vu que j'habite au nord de Lyon.
Pas loin de chez Hugues Mouret.
Et oui.
Qu'on salue au passage.
On est voisins.
Salut mon Hugues.
Le vivant véhicule parfois cet imaginaire de survie, d'un monde sans pitié. On parle de loi de la jungle. Tu en parles dans ton livre avec l'idée fausse numéro 23. Le grand moteur de la vie, c'est la compétition. Peux-tu nous expliquer pourquoi c'est en partie vrai, mais aussi très faux, et nous l'illustrer avec quelques exemples d'animaux, peut-être ?
Tout le monde a en tête cette histoire de compétition. Tu sais, le struggle for life, la lutte pour la survie, la loi du plus fort, toutes ces choses. Et donc, qui s'illustre par la compétition. Mais en fait, les rapports entre les différentes espèces du vivant sont bien... Enfin, il y a bien d'autres modalités que ça. Et il y a un schéma qui les résume bien, c'est celui qui consiste à mettre... Si tu veux, il y a une ligne basale où, en gros, tout est négatif, c'est-à-dire il n'y a que des désavantages, et ça, c'est la compétition. Donc, tout en bas de cette échelle des interactions, tu as la compétition qui ne provoque que des désagréments pour une espèce A et une espèce B. Mais tu vois, quand tu as... Par exemple, ensuite, la relation suivante s'appelle l'amensalisme. Tu vois, et l'amensalisme, c'est par exemple quand tu écrases une fourmi sans même le savoir et surtout sans le vouloir. Donc toi, ça t'apporte rien. Donc là, on arrive à zéro, mais il y a un perdant, c'est la fourmi. Donc tu vois, ça, c'est l'amensalisme. Ensuite, il y a un truc qui n'existe pas dans le vivant ou alors que de manière théorique, c'est ce qu'on appelle le neutralisme. C'est-à-dire quand il y a des espèces qui coexistent sans qu'il y ait absolument aucun avantage et aucun désavantage, ni pour l'espèce A, ni pour l'espèce B. Ça, c'est la ligne de base de ce que je viens de dire, si tu imagines un truc qui monte, un peu une sorte de gradation. Et donc là, il y a zéro avantage. Et au-dessus de ça, la ligne du dessus qui est au top, enfin au top, j'y mets aucune valeur en fait, qui est, on va dire, au-dessus de notre description, eh bien, c'est ce qu'on appelle le mutualisme, où pour l'espèce A et pour l'espèce B, il y a un avantage pour l'une et il y a un avantage pour l'autre. Exemple, le corail. Dans le corail, tu vois, tu as le polype, qui est un petit animal, et il héberge une algue. Il s'échange le gîte et le couvert. C'est-à-dire que le polype fournit le gîte et l'algue fournit l'oxygène. Enfin, tu vois, et donc, il y a des échanges comme ça entre eux. Un autre type de cette coopération, de ce mutualisme, dans certains cas, quand ils ne peuvent plus vivre l'un sans l'autre, eh ben on appelle ça la symbiose. Le corail est une symbiose, celui que j'ai dit avant. Il y a aussi le microbiote. Alors, on a tous, on a du mal à s'en rendre compte, mais on a tous, enfin, toi sans doute moins que moi, mais moi qui pèse 85 kilos, j'ai entre 2 et 3 kilos de bactéries à l'intérieur de mon ventre. Toi, tu en as sans doute entre un peu moins, autour de 2 kilos. Donc, effectivement, et ces bactéries nous sont essentielles. Elles nous aident à dégrader tout notre bol alimentaire, etc. Et elles ne pourraient pas vivre sans nous, ces bactéries.
Enfin, inversement.
Et inversement. Mmh. Donc, c'est une symbiose. Donc, tu vois, résumer les rapports du vivant à la compétition, c'est une lourde erreur, en fait. C'est ne pas voir ce que... Enfin, pardon pour cet anglicisme. C'est ne pas voir la bigger picture dans laquelle on vit. Et tout ce bouquin, c'est pour essayer de donner une image, encore une fois, très imparfaite et très parcellaire de cette bigger picture qu'on a oubliée.
Mmh. Il y a le comment... Salisme, c'est un mot que j'ai découvert dans ton livre, c'est quand, il me semble pas que tu en aies parlé, c'est quand il y a un gagnant et zéro perdant, donc juste des pique-assiettes et des trop gentils, par exemple les moineaux domestiques qui viennent manger dans nos assiettes les restes. Tu écris « L'entraide est la grande force du vivant, bien loin de la compétition, qui certes existe, mais qui n'a pas l'importance qu'on veut bien lui donner », page 132. Et j'avais bien aimé aussi une citation de ton livre du botaniste Jean-Marie Pelt qui dit « La coopération crée, la compétition trie ». Et en effet, les deux sont évidemment très utiles.
Ouais, si tu me permets de rebondir. Alors Jean-Marie Pelt, c'était un botaniste à la base des années, on va dire, plutôt 90. Il est mort, Jean-Marie Pelt. C'est un enchanteur, tu vois, un peu comme Jean-Claude Amezen, un peu comme Gilles Boeuf, un peu comme les grands enchanteurs, passeurs, je ne sais pas comment dire, vulgarisateurs, qui sont un peu mes modèles. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de scientifiques pur jus qui lui cherchent un peu des poux dans la tête, à raison. Il a dit des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, mais tout ça n'est pas très grave. Il n'empêche que sa phrase est très belle et elle dessine une sorte de principe général qui est très juste. Effectivement, la compétition trie, mais la coopération crée. Tout est dit. Tout est dit.
Ouais, c'est très beau, j'aime bien. Toujours avec cette idée de voir cette big picture, cette plus grande vision du vivant, j'ai beaucoup aimé ce que tu expliques sur le parasitisme. Avec l'idée fausse numéro 10, le parasitisme est un fléau pour le vivant. Peux-tu nous expliquer à quoi sert le parasitisme ?
Oui, l'exemple que je donne dans le livre, c'est un exemple qui est frais, qui secoue tout le monde, qui fait peur à tout le monde, c'est l'exemple des punaises de lit. Tout le monde déteste les punaises de lit, et il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais à quoi servent les moustiques ? À quoi servent les punaises de lit ? Mais vraiment, on devrait tous les exterminer, on ne s'en porterait que mieux. » Là encore, c'est ne pas connaître, c'est ne pas faire de place. Et je trouve ça dramatiquissime à ce que j'ai appelé la bigger picture, c'est-à-dire au monde dans lequel on vit. Pour en rester sur les punaises sont une des réponses du vivant au fait que l'homme prend aujourd'hui une place qui est écrasante dans le monde. Je rappelle que l'homme et son bétail, l'homme et tous les animaux qu'il élève dans des conditions que je qualifie de concentrationnaires, ce qui choque certaines personnes, mais on peut dire horrible si ça convient à tout le monde, l'homme et son bétail pèsent en biomasse 95% des mammifères sur Terre.
Incroyable.
C'est-à-dire que baleines, éléphants, tout ça, c'est 5%. Toutes les espèces sauvages, c'est 5%. Donc tu vois le truc. Donc une des réponses du vivant, qu'on peut aussi considérer comme un ensemble, comme une espèce de symbionte, tu vois, générale, c'est la fameuse hypothèse Gaïa, eh bien, une des réponses du vivant à cet envahissement, à cet écrasement de l'humain sur Terre, qui est de loin, de très loin, la pire espèce envahissante que le monde ait jamais connue, hein, loin devant les chats, les rats, même les moustiques, tout ce que tu veux, eh bien, une des réponses, c'est par exemple les punaises. C'est-à-dire que le fait que nous vivions si nombreux, que nous voyagions autant, entassés dans des villes, font que, bien sûr, c'est une bénédiction pour des insectes comme les punaises. Donc voilà, à partir de là, bien sûr, ça nous gêne, mais on peut aussi... Enfin, c'est comme le Covid. Tu vois, comment est arrivé le Covid ? Est-ce que c'était une punition divine ? Ou est-ce que c'est à cause de nos pratiques qui consistent à ramener ce que font les Asiatiques, mais ce qu'on fait aussi en Europe, hein, ils ont bon dos, les Chinois et les Asiatiques. C'est-à-dire d'aller de plus en plus profond dans les forêts pour ramener des espèces sauvages pour les bouffer, pour faire des plats incertains et grotesques, et les entasser dans des marchés. C'est comme ça que je rappelle que c'est comme ça que le Covid nous est arrivé. Parce que le réservoir, c'était des chauves-souris, mais du coup, qui ont transmis des virus qui se sont adaptés à un hôte intermédiaire, qui nous sont ensuite revenus. Le pangolin a longtemps été soupçonné, aujourd'hui, il a été innocenté, ce qui n'empêche pas qu'il soit le mammifère le plus braconné du monde. Mais voilà. Enfin, en résumé, ce sont toutes nos conneries, parlons clairement, toutes nos façons de vivre qui sont très peu remises en question aujourd'hui, le fait de voyager. Tu vois, on avait réussi à les chasser, les punaises, au fil des siècles. Elles étaient assez rares. Mais là, ces dernières décennies, elles sont revenues en masse à cause de nos façons de vivre. On les a chassées par la fenêtre, elles sont revenues par nos valises, les punaises.
Et je dirais aussi par notre méconnaissance. Et par exemple, moi, quand j'ai lu ton chapitre à ce sujet, ça m'a fait penser à la renouée du Japon, qui est une plante qui pullule chez nous. Et donc, notre réponse en tant qu'humain, c'est de l'éradiquer, de la couper. Alors que c'est une plante bio-indicatrice des métaux lourds dans le sol. Et donc, quand on comprend ça, on se dit peut-être qu'elle peut nous aider justement à traiter le sol. Tu écris, page 63-64, « Presque une espèce animale sur deux est un parasite. Les parasites sont partout. Ce n'est ni bien, ni mal, ni beau, ni moche, ni vertueux, ni condamnable. De la même manière que le vivant a besoin, entre autres, de prédateurs et de proies pour la régulation des populations, on a besoin des parasites. Les parasites obligent leur hôte à être plus adaptatif. C'est une réponse du vivant au même titre que l'entraide et la concurrence. » Et je trouve que c'est très chouette de prendre conscience de ça.
Ouais, si tu me permets, juste pour ajouter que, tu vois, par exemple, sur France Culture, j'ai fait une émission sur les abeilles sauvages. Tout le monde connaît l'abeille à miel, mais personne ne sait qu'il y a 1000 espèces d'abeilles en France, 2000 en Europe, 20 000 dans le monde. Sur ces 1000 espèces françaises, une sur cinq est une abeille coucou. C'est-à-dire une abeille qui pond ses œufs dans, en gros, les nids des autres, qui sont le plus souvent, 7 espèces sur 10 sont solitaires et vivent dans un trou du sol. Hein. Les abeilles, elles sont loin de tout vivre en colonie, tu vois. Et voilà, c'est juste pour dire que voilà, une sur cinq est une espèce coucou. Et donc effectivement, le parasitisme est absolument partout. C'est ni bien ni mal. Et ils ont aussi un rôle d'évidence. Ils régulent des populations, les parasites. Ils sont pas là, et tu vois, c'est pas une punition divine. Ça serait vraiment idiot de ne voir ça que comme ça.
Dans ton livre, tu expliques pourquoi le vivant est mal fait et cruel, mais aussi pourquoi il est bien fait avec plein d'exemples passionnants. Le vivant, c'est aussi des émotions, du rire, du rythme, du son, de l'amour. Prochaine idée fausse numéro 38, le rire, entre autres, est le propre de l'humain. Peux-tu nous expliquer les mécanismes du rire parmi le vivant et nous donner un exemple d'animaux qui utilisent le rire ?
Oui, alors avant, je voudrais préciser un peu ce que tu dis. Quand tu dis que je dis que la nature est belle, moche ou cruelle, ce sont justement... Les titres de chacun des chapitres sont des idées fausses.
Oui, oui.
Donc, dire ça...
Oui, c'est faux.
Je le précise,
ouais,
je sais bien que
tu
as bien compris,
tu
mais
fais bien.
Je le précise.
Tu fais bien de dire.
Dire ça, c'est... Voilà, ça serait une erreur. C'est justement de l'anthropomorphisme. La nature n'est ni rien, n'est ni belle, ni moche, ni cruelle, ni généreuse. La nature est, comme toi, comme moi, comme ceux qui nous écoutent, c'est déjà grandement suffisant. Pardonne-moi, du coup, c'était quoi ta question ?
Le rire.
Le rire. Alors, il se trouve que, en plus des livres, parfois on me demande de faire des articles sur un certain nombre de choses. Et là, je rends hommage à La Tribu du Vivant, qui est un magazine auquel je collabore, qui m'a demandé de faire un dossier sur le rire. Le rire, c'est un peu pareil. Il y a une étude très sérieuse, récente, qui a expliqué que de nombreuses espèces riaient. Alors, bien sûr, elles ne rient pas en s'esclaffant comme le font les humains et en produisant du son et avec les lèvres qui s'écartent, etc. Mais il y a plein d'espèces, des éléphants aux pies australiennes, en passant par toutes sortes d'autres de mammifères ou d'autres oiseaux, etc., qui rient. Je renvoie au bouquin pour avoir une liste plus exhaustive. Moi, ce qui me fascine dans cette histoire de rire, c'est son histoire. C'est-à-dire que chez les primates, en tout cas chez les primates, mais sans doute chez d'autres animaux, le rire provient du recyclage d'une attitude de crainte, de peur et de menace. Et chacun va s'en rendre compte quand un chien veut se faire menaçant, il montre ses dents. Il retrousse les lèvres et il montre ses dents. Eh bien, on pense que pour les premiers primates, le rire serait un signe de peur et de menace recyclé, puisque les primates aussi, je pense aux chimpanzés, quand ils sont stressés, je suis en train de le faire là, tu vois, je te vois sourire, montrent leurs dents. Et c'est une manière de dire « Attention, si tu m'emmerdes trop, je vais te mordre ». Et c'est drôle parce que finalement, c'est une sorte de « Je dépose les armes à l'entrée du saloon », le fait de sourire. En tout cas, il pourrait venir de là. Et je trouvais ça assez fascinant de raconter ça.
Et c'est ce que tu es en train de faire ? Tu te sens stressé ? Tu montes les dents ?
Ah ! Non, non, alors je dois avouer que
c'est... dans la version moderne.
Non, je dois quand même dire aux auditeurs que c'est une interview sur du velours. Hein. Apparemment, je ne suis que ton 7e client. Et je dois avouer que c'est très pro, vraiment, tout ce que tu fais. Je le dis avec beaucoup d'admiration.
Merci. Tu écris dans ton livre au moins 65 espèces animaleries, des oiseaux comme les perruches, les cassicans flûteurs, je vous recommande d'aller voir sur internet, elles sont très élégantes, c'est des pies australiennes, des mammifères, des chimpanzés aux canidés comme les renards, les chiens, en passant par les éléphants, les écureuils et les otaries. Dans un contexte de jeu, tout cela rit à leur façon. Certains halètent, d'autres sifflent, claquent des babines ou ronronnent. Les éléphants soufflent, les wapitis américains vagissent.
Comme les crocodiles.
Les Nestor Kea Queen.
Les Nestor Kea Queen. Oui, ça pourrait presque être les serpents qui sifflent sur nos têtes. Hein. Voilà. Les Nestor Kea Queen. Ça, il faudra vraiment garder dans ton montage final, je pense.
Merci beaucoup, Marc.
Grand merci à toi. Salut, Chloé. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.